bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Un grand plan pour les petites associations, pas de droit de vote pour les étrangers. Voici quelques pistes évoquées par Emmanuel Macron hier face aux élus d'Île-de-France. Il a poussé le grand débat national vers la banlieue, nous y reviendrons. Vous entendrez ensuite pourquoi la CGT et les Gilets jaunes peuvent faire converger leur lutte. Journée d'action, journée de grève ce mardi. Mediapart refuse une perquisition de ses locaux. Il s'agit d'une enquête ouverte dans le cadre de l'affaire Benalla. La liberté de la presse est en jeu, vous le comprendrez. Et puis, vous entendrez des catholiques qui habitent à Abu Dhabi. Le pape François y poursuit sa visite aujourd'hui. 6 heures d'échange au total, cela deviendrait presque une habitude. Emmanuel Macron s'est adressé hier soir aux élus et aux représentants associatifs de villes et de quartiers populaires en Île-de-France. 150 personnes environ étaient présentes. Elles étaient réunies dans l'Essonne, à Évry-Courcouronne, dans le cadre du grand débat national. Une soirée sous forme de deuxième chance, pourrait-on dire, pour le président. Et ce, après le rejet du rapport Borloo, auquel bon nombre de maires de banlieue avaient contribué il y a moins d'un an. Des discussions, donc, parfois assez technique, et certains invités n'ont pas caché hier leur scepticisme vis-à-vis de la démarche d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'a constaté Claire Chaudière.
Silence, un peu glacial à vrai dire, à l'arrivée du président, et d'entrée de jeu, les doutes sont exprimés.
Je vous ai écrit, monsieur le président, pas de réponse. Vous voyez, c'est le mot de confiance qui est posé à un moment donné.
On m'a demandé de participer à ce débat, j'ai hésité.
Nous sommes des villes assoiffées d'égalité.
La question récurrente de l'inégalité d'accès au droit commun, éducation, police, justice, pourquoi pas une cour d'équité territoriale, suggèrent les maires. Emmanuel Macron se dit opposé au droit de vote des étrangers. Trop nombreux sont d'ailleurs les citoyens qui ne s'en servent pas, dit-il. Il parle d'un grand plan pour les petites associations et avec une pointe d'humour de la nécessité d'un autre regard sur la banlieue.
Des infrastructures culturelles, 2 aéroports internationaux. C'est la Seine-Saint-Denis. On regarderait de l'autre bout du monde ce truc, c'est San Francisco. Il manque que la mer par rapport à la Californie.
Thérèse, venue d'Aulnay-sous-Bois, est ravie.
À chaque fois qu'on lui pose des questions, il répond, il écoute, mais il est sincère.
Les signataires de l'appel de Grigny à l'origine du rapport Borloo repartent un peu perplexes. Pas de nouvel élan, mais des intentions. Abdel, membre d'un conseil citoyen, est lui clairement déçu.
On tourne un peu en rond, on rabâche le même discours, la même chose. Ça fait déjà des années qu'on entend ces discours-là.
Mais au-delà des quartiers populaires, c'est peut-être ce grand débat dans son ensemble, lâche un responsable associatif qui commence un peu à tourner en rond.
Encore juste 2 petites phrases.
Il faut conclure. Merci beaucoup.
C'était un reportage de Claire Chaudière. Notons qu'hier soir aussi, à Béziers, ville du maire d'extrême droite Robert Ménard, un débat était organisé. La question du pouvoir d'achat y a supplanté l'immigration. Et pendant que les citoyens et certains élus débattent, les députés, eux, discutent de la proposition de loi dite anti-casseur, du texte sur la prévention des violences lors des manifestations et la sanction de leurs auteurs. Il sera soumis cet après-midi au vote solennel des députés en première lecture à l'Assemblée nationale. Mais il provoque encore des dissensions au sein de la majorité, Laurent Sénéchal.
Personne ne veut parler de fronde, mais il y a bien un réel malaise au sein de La République En Marche. Mathieu Orphelin dénonce l'interdiction administrative de manifester. Elle pourrait être mal utilisée, selon lui, par un futur régime d'extrême droite, par exemple. Il compte s'abstenir, tout comme Aurélien Taché. Le chiracien Hugues Ranson, vice-président de l'Assemblée, veut encore réfléchir. On touche à une liberté publique essentielle, rappelle-t-il, même s'il salue l'interdiction de dissimuler son visage ou le principe du casseur-payeur. Les députés de la majorité ont été 15 à s'abstenir ou s'opposer à la loi Asile-Immigration. Il pourrait être cette fois-ci 20. Malgré tout, la loi devrait être votée à l'Assemblée. L'une des têtes du groupe La République En Marche juge que le texte initial du très droitier Bruno Retailleau a été réécrit de manière innovante. Elle accuse ses collègues abstentionnistes de conduire une bataille d'existence politique. La liberté de vote accordée par Stanislas Guérini, le patron du parti, l'a fait soupirer. Ça va être le bazar, résume-t-elle.
Et voici la réponse du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur sa page Facebook hier soir. Ce texte, écrit-il, n'est pas liberticide, au contraire, il assure la sauvegarde des libertés individuelles et affirme la liberté de manifester. Fin de citation. Certains donc manifestent pour dénoncer le grand débat national que nous évoquions en début de journal. D'autres manifestent contre les violences policières, en filigrane derrière la proposition de loi anti-casseurs. D'autres encore veulent aujourd'hui dénoncer l'injustice sociale et fiscale. La CGT avait lancé le mouvement, le syndicat est rejoint par Sud, par Solidaire, mais aussi par certains Gilets jaunes, ainsi que des partis politiques comme le parti de gauche, le NPA, la France Insoumise. Et c'est assez logique pour Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque, l'organisation altermondialiste. Elle s'en explique.
C'est la première fois d'abord que les Gilets jaunes appellent à rejoindre une grève interprofessionnelle annoncée par les syndicats. Et en fait, ça fait suite à des convergences qui s'étaient produites depuis le début du mouvement, avec le mouvement climat, avec le mouvement des lycéens, avec le mouvement des quartiers, je pense au collectif Adama. Et donc là, il s'agit d'avoir une étape supplémentaire dans ce rassemblement des forces pour la justice sociale, fiscale, environnementale, et de montrer notre souhait de soutenir sur ces revendications-là, le mouvement des Gilets jaunes, c'est surtout sur des valeurs de fond, ce souhait qu'il y ait une toute autre répartition des richesses. Quand le mouvement des Gilets jaunes demande une augmentation des salaires, une restauration de services publics de qualité, de proximité, ça rejoint en fait ce que porte le mouvement syndical, associatif, progressiste, ce qu'on porte depuis longtemps, et cette répartition des richesses. Parce que, au fond, si on veut augmenter les salaires, ça veut dire aussi qu'il faut faire en sorte que les bénéfices des entreprises aillent vers les salaires, vers l'investissement, et non plus vers les actionnaires et leurs dividendes. Nous, on le dénonce, mais on voit bien surtout que c'est, au fond, les revendications des Gilets jaunes qui n'en peuvent plus. Mais je crois que la journée peut justement permettre cette connexion-là, pas seulement entre mouvements, mais surtout entre revendications.
Des propos recueillis par Catherine Pétillon. Elle était déjà tentaculaire. L'affaire Benalla connaît un nouveau front. Le parquet de Paris a tenté hier de perquisitionner Mediapart. Après la diffusion la semaine passée d'une conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Kraze, cette nouvelle enquête a été ouverte pour atteinte à l'intimité de la vie privée, notamment. Le site d'information Mediapart hier a refusé la perquisition et s'est empressé de dénoncer une volonté d'atteinte au secret des sources. Même inquiétude pour Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières.
C'est une affaire qui est non seulement stupéfiante, mais qui est franchement inquiétante. Le journalisme d'investigation, il est en danger, parce qu'il subit des attaques multiples, et notamment sur le plan judiciaire, parce qu'il y a des procédures bâillons de la part de personnes qui sont l'objet d'enquêtes et qui font en sorte, en instrumentalisant les procédures judiciaires, d'empêcher les journalistes de révéler les choses, ou qui font en sorte de les intimider. Et là, de manière extrêmement claire, on est non pas de la part du procureur dans l'intention de protéger la vie privée de M. Benalla, on est, de manière évidente, dans une tentative d'atteinte au secret des sources. Est-ce que la protection de la vie privée de M. Benalla, est-ce qu'elle relève d'un impératif prépondérant d'intérêt public ? À l'évidence, non. Ça signe l'intention du procureur. Aujourd'hui, le parquet met en danger le journalisme d'investigation en procédant à telles actions, parce que si dans un pays, le secret des sources n'est pas garanti, s'il apparaît qu'il est fragilisé par des actions comme celle-là, alors des sources peuvent se montrer réticentes à parler. Et qu'est-ce qu'un pays dans lequel le secret des sources des journalistes n'est pas garanti ? Ça n'est pas un pays où les journalistes ont un privilège en moins. C'est un pays où les citoyens sont privés de leurs droits à avoir accès à une information qui n'est pas seulement une information officielle.
Christophe Deloire de RSF au micro de Rosalie Lafarge. Un incendie s'est déclaré cette nuit à Paris dans le 16e arrondissement. Incendie meurtrier, 7 personnes sont mortes. 30 ont été blessées, dont une grièvement. Le feu, à l'instant même, est maîtrisé par les pompiers. La situation est toujours tendue au Venezuela. L'opposant Juan Guaido est désormais reconnu comme président par intérim par 19 pays européens, reconnu aussi toujours par les États-Unis. Le Canada et 11 pays latino-américains demandent eux à l'armée vénézuélienne de se ranger derrière l'opposant. Il prépare une messe d'ampleur et inédite. Le pape François termine sa visite historique aux Émirats Arabes Unis ce mardi. Hier déjà, devant un parterre multiconfessionnel, il apprenait la liberté religieuse. Il a condamné la violence perpétuée au nom de la religion, et ce devant les oreilles attentives de milliers de fidèles, Mathilde Imberti.
1 million de catholiques résident aux Émirats, des émigrés essentiellement qui travaillent sur cette riche terre pétrolière. Ici, confirme Aïza, une jeune femme philippine, la liberté de culte est réelle.
C'est un pays musulman, mais nous avons nos églises. On a de la chance. Ça n'a jamais été un problème pour moi. Jusqu'ici, tout va bien.
La liberté de culte est une chose, la liberté religieuse en est une autre, a pourtant souligné le pape François hier soir. Le regard tourné vers l'ensemble de la péninsule arabique, Arabie Saoudite comprise.
La liberté religieuse voit dans l'autre un véritable frère. Un frère qu'aucune institution humaine ne peut forcer, même en son nom.
L'évêque chargé pour l'Église catholique de l'Arabie Saoudite, Mgr Camillo Balin, suit le pape tout en confiance et doute.
Liberté religieuse complète, je ne la vois pas. Parce que cela veut dire que chaque musulman, par exemple, est libre de changer sa religion. Ça, ce n'est pas possible. Enfin, il y a liberté de culte. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le berceau de l'islam. Alors le fait d'admettre des églises, c'est déjà beaucoup.
Les catholiques invités exceptionnellement aujourd'hui à une messe en plein air. Ils sont plus de 100 000 fidèles rassemblés ce matin au grand stade de la ville.
Mathilde Imberti, envoyée spéciale de France Culture à Abu Dhabi. Le pays est coupé en deux par Météo France ce mardi. À l'est, il y aura de grandes éclaircies. À l'ouest, de la grisaille et des pluies. Comptez -2 à Chambéry ce matin, 3 degrés à Paris, 9 à Bordeaux, 10 à Perpignan.